Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopée en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au salon La mer XXL à Nantes, donc ce 4 juillet, et nous accueillons sur le stand de Réseau Canopée trois invités qui travaillent sur trois structures différentes et qui vont nous présenter leurs activités ainsi que les thématiques qu'ils portent à travers l'éducation, le patrimoine et bien évidemment la mer. Alors je vais présenter d'abord Joël.
Bonjour, donc je suis Joël Supéry, président de Tuscaland. Cette association nouvellement créée a pour mission de rassembler tous les éléments concernant les Vikings au sud de la Loire. À terme, l'idée est d'organiser une grande exposition à vocation internationale et au final un musée ou un centre d'interprétation viking au sud de la Loire en Aquitaine a priori.
Très bien, nous avons aussi donc Philibert. Philibert qui représente une école.
Donc bonjour, je suis Philibert Adam, donc je suis étudiant en deuxième année à l'ENSTA Bretagne, donc à une école d'ingénieurs à Brest, et je travaille en robotique, donc principalement la robotique sous-marine, donc appliquée à la découverte de patrimoine sous la mer ou épave en tout genre.
Très bien. Et enfin, nous avons Nadia. Bonjour Nadia.
Bonjour, je suis Nadia Méziane, enseignante-chercheure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je dirige la station marine de Concarneau, qui au passage est la plus ancienne station marine encore en activité au monde. Et en tant que Muséum National d'Histoire Naturelle, nos missions sont la recherche, l'expertise, l'enseignement, les collections et la diffusion des connaissances.
Très bien. Alors aujourd'hui, ce qui nous lie, donc, c'est le salon, la mer XXL. Nous avons vocation à promouvoir tous les dispositifs, toutes les initiatives qui vont s'adresser aux enseignants, à la communauté éducative. Alors je vais d'abord me tourner vers Nadia. Sur vos actions de médiation à destination peut-être des scolaires ou peut-être des périscolaires, est-ce que vous avez des initiatives spécifiques ?
Sur le salon ?
Sur le salon et même bien sûr en général.
D'accord. Bah, sur nos structures, on a déjà des galeries qui sont ouvertes, hein, aussi bien à Paris qu'à Concarneau. On a à Concarneau un marinarium qui est ouvert au grand public et pour lequel on fait pas mal d'animations pour les scolaires. Sur le salon, nous avons quelques animations pour sensibiliser le public, notamment aux problèmes d'acidification des océans et de l'impact sur les organismes, avec des expériences très très simples qui amusent beaucoup les enfants, mais derrière, il y a un message fort qui passe. Nous avons également des ateliers pour que les personnes soient sensibilisées à la biodiversité marine, donc avec des loupes binoculaires, parce que ça intéresse toujours. Et puis on sort un petit peu de ce côté virtuel. Hein. Sur le salon, il y a beaucoup de virtuel. Nous, on est ancrés sur nos collections. Et ça change un petit peu du virtuel. Et les gens sont là pour, d'une part, admirer la faune, parce que les organismes sont quand même ont une architecture qui est magnifique, originale. On explique le fonctionnement et on explique que cette biodiversité, elle est nécessaire à l'homme, aussi bien en tant que ressource alimentaire que en tant que bio-inspiration, et puis que tous ensemble, en fait, on forme qu'un seul écosystème où chacun a sa place.
D'accord, donc des actions qui sont très centrées sur le développement durable, sur un petit peu l'historique aussi de la biodiversité.
Tout à fait, on présente un cabinet de curiosité qui attire beaucoup le public, où on explique que les collections sont patrimoniales, elles sont anciennes. Hein. Les premières collections à Concarneau datent de 1850, au muséum 1790 quand même, hein, les premiers spécimens. Donc on est vraiment dans le patrimoine là. Et puis on explique qu'on continue au travers des expéditions océanographiques à alimenter ces collections qui sont des témoins en fait de la biodiversité. Et on sait déjà que dans nos collections, on a des espèces qui ne sont pas décrites et qui ont probablement déjà disparu sous l'impact du changement global.
D'accord. Donc toutes ces expéditions sont menées actuellement par des bateaux qui explorent encore. Peut-être qu'on peut faire le lien avec du développement aujourd'hui, avec le projet de l'école. Est-ce que tu peux
de l'école nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA. Donc nous, on est plus axé sur la technologie, le développement de méthodes pour découvrir ce qui se trouve soit au fond de l'eau, soit faire des cartes. Donc par exemple, on sait qu'on ne connaît que 18% des fonds marins actuellement. Mmh. Et donc on a 82% encore à découvrir, donc que ça soit la géographie ou tout simplement des espèces qui y vivent. Donc on a vraiment un milieu inconnu. Et donc nous, on essaye de développer des méthodes à base de sonar ou d'autres sondeurs pour découvrir. Donc on a un projet actuellement à Brest, c'est une campagne pour la recherche de la Cordelière, donc le navire amiral de la Duchesse Anne, qui a coulé dans la rade de Brest avec le Régent, donc le bateau amiral de la flotte anglaise à cette époque. Et donc on est en train de rechercher activement ces deux épaves, qui sont pourtant des gros bateaux pour l'époque. Donc on a différents moyens à disposition, on a par exemple le Drasme qui arrive avec l'André Malraux, donc un bateau équipé de plusieurs sondeurs pour essayer de découvrir du patrimoine en fait enfoui qu'on aurait perdu et qui pourtant reflète la grandeur de la France à cette époque. Donc nous à l'ENSTA, on essaye de développer des solutions autonomes pour découvrir du patrimoine enfoui. Donc on a par exemple développé un bateau autonome, un petit Zodiac, qui va faire des briques hydrographiques, donc des lignes bien précises pour étudier une zone et bien la cartographier. Donc on essaye vraiment de mettre la technologie à l'avant pour essayer de découvrir.
Alors, est-ce qu'on aurait besoin de ce type d'outils pour faire de l'archéologie sous-marine, pour pouvoir peut-être mieux connaître une civilisation et justement
les Vikings en l'occurrence. Bien justement, hier, je discutais avec une société archéologique qui expliquait le plus simplement du monde qu'aujourd'hui, on était capable de repérer les masses métalliques et que tout ce qui était bois, ça s'effaçait au fond des mers. Donc les sonars repéraient les masses métalliques, les plongeurs repéraient essentiellement les poteries, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à identifier les épaves romaines ou plus tardives. Mais en ce qui concerne les Vikings, s'ils n'avaient pas de métal ni de poterie, eh bien, a priori, on est incapable d'identifier au fond de la mer un drakkar, grosso modo. Bon, on en a trouvé des vestiges en Irlande sur des récifs où on savait qu'ils passaient et où ils faisaient naufrage. Mais trouver, grâce à moyens techniques, un drakkar, ça sera difficile. Ceci dit, le drakkar, il y en a, puisque je me souviens quand j'étais gamin, il y avait un notaire qui racontait qu'un de ses clients qui ramassait la grave dans la Garonne avait un jour ramené une tête de 2 mètres de haut, une tête de monstre, et donc les gars l'avaient mise de côté le temps de finir leur journée, et quand ils l'avaient retrouvée le soir, elle était totalement décomposée, donc ils l'ont rejetée dans la Garonne. Donc le patrimoine maritime français, notamment en bois, déjà il faut le trouver, puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut le conserver, et puis une fois qu'on l'a conservé, enfin bon, c'est très compliqué de conserver le patrimoine maritime en bois, et c'est pour ça que la France a un patrimoine, on va dire, assez pauvre en la matière.
Et est-ce que vous pourriez un petit peu aussi développer un petit peu l'objet donc, de Tuscaland que vous représentez?
Tout à fait, donc Tuscaland, c'est parti d'un constat, c'est-à-dire que je m'intéressais à l'histoire de la marine, et j'avais constaté que les Basques étaient chasseurs de baleines et prétendaient avoir fréquenté l'Amérique précolombienne. Et donc la question naturelle, c'était est-ce que c'est une pure coïncidence ou est-ce qu'il y a eu contact et transmission entre les Basques et les Scandinaves? Et un jour, on emménage à Cap-Breton, je m'intéresse à la question et on m'explique qu'il y a une tradition locale qui vieille de 12 siècles, qui évoque une victoire des Cap-Bretonnais sur les Vikings. Et donc à partir de là, j'ai commencé à reprendre les sources gasconnes évoquant les Vikings. Et la lecture que j'en ai eue était très différente de celle qui était officiellement retenue, c'est-à-dire que ces textes disaient « les Vikings ont envahi la Gascogne en 840, ils ont pris les 12 évêchés, éliminé les 12 évêques, et 140 ans plus tard, ils sont vaincus et l'église de Gascogne est rétablie ». En gros, ces textes disaient une occupation de 141 Gascogne. Et à partir de là, on commence à s'interroger pourquoi la Gascogne. On comprend que derrière Bayonne, il y a Narbonne, que derrière, c'est la route atlantique méditerranée qui intéresse les Vikings. Et puis, derrière, une fois qu'ils ont créé cette route, s'ils veulent attirer le commerce dessus, ils doivent ruiner le commerce des routes concurrentes. Donc, le commerce qui part de Venise et de Marseille et qui rejoint la mer du Nord doit être détruit pour que la route du Sud-Ouest fonctionne. Et donc, les attaques sur la Loire, la Seine, la Meuse, l'Escaut, le Rhin, la Somme ont pour objet de détruire le commerce franc sur les axes contrôlés par les Francs, pour inciter le commerce méditerranéen à passer par le sud. Et lorsqu'ils rentrent en Méditerranée, c'est évidemment pas pour faire du tourisme, mais pour obtenir des traités commerciaux avec les Pisans, avec Constantinople, avec tous les acteurs du commerce méditerranéen. Et donc nous proposons une analyse commerciale des invasions, et qui de fait est centrée sur la Gascogne. Et en fait, ce passage des Vikings explique pourquoi l'Aquitaine d'Aliénor d'Aquitaine va être le moteur de l'histoire maritime européenne à cette époque, puisque ce sont les Aquitains qui vont réapprendre aux Anglais à naviguer, qui vont transmettre leur technique de chasse de baleines aux Hollandais, qui vont transmettre les techniques de construction navale aux Portugais. Donc c'est, l'Aquitaine avait une tradition maritime, on ne savait pas expliquer d'où elle venait. Mais en fait, le passage des Vikings et leur séjour prolongé explique pourquoi l'Aquitaine avait une telle connaissance en matière maritime à l'époque.
Donc ce patrimoine est toujours présent. Est-ce qu'il est mis en valeur? Est-ce qu'il est valorisé?
Alors, il est présent pour qui sait le voir. Est-il mis en valeur, valorisé? Non. On en connaît des morceaux qu'on ne rattache pas forcément à la présence scandinave, puisque c'est une idée assez nouvelle, puisque jusqu'à présent, c'était le mythe du pillard de monastère qui attaque et qui repart, qui avait pignon sur rue, et cette image commode a dispensé beaucoup de chercheurs de se poser la question: est-ce que les Vikings ont éventuellement laissé une toponymie scandinave en Gascogne? La question ne se pose pas, puisqu'ils sont des pirates, donc ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'ils ont laissé des vestiges? Ben non, puisqu'ils pillent, ils repartent, donc ils n'ont pas le temps de laisser des vestiges. Évidemment, à partir du moment où on part d'un cliché, d'un postulat, les recherches peuvent vite tourner court. Et donc le patrimoine, il existe, mais est-il mis en valeur? Non. Mais la chasse à la baleine pratiquée par les Basques fait partie de ce patrimoine. Les charpentes des maisons landaises font partie de ce patrimoine. L'ancien droit gascon, les assemblées d'hommes libres du Pays Basque et de Gascogne font partie de ce patrimoine. Les cadets de Gascogne également, puisque les cadets de Gascogne, c'était les Gascons victimes d'un droit d'aînesse purement germanique. Alors ça existait dans le nord de la France, en Bretagne, parce qu'on était un pays de droit germanique, mais dans le sud de la France, c'était un pays de droit romain théoriquement. Et là, on avait une enclave de droit germanique en Gascogne. La question, qui étaient les Germains qui ont imposé, qui ont laissé ces règles successorales? Et donc, quand on cherche, on trouve.
Donc au-delà des vestiges, on retrouve aussi des codes sociaux, et puis aussi peut-être des traditions?
Ben, absolument. Bon, alors déjà, la tradition aquitaine, c'était la construction à clair. Donc, surtout le pourtour du golfe de Gascogne, en Bretagne comme en Galice, on construisait à clair, ce qui était une technologie scandinave. Et donc, dès qu'on cherche, on va trouver plein de traditions. En ce moment, ce qui est amusant, c'est que je reçois de plus en plus de mails de personnes qui découvrent par hasard, en faisant leur test MyHeritage DNA, qu'ils ont des pourcentages scandinaves assez inattendus. Et bon, j'ai notamment une dame qui était béarnaise depuis 4-5 générations. Tout le monde était béarnais. Elle se retrouvait avec 15% de gènes scandinaves. Et elle disait, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai des gens qui regardent sur Internet Viking Gascogne et qui me découvrent, mais ils le font beaucoup après avoir fait ce test-là. Après, j'imagine que ce genre de découverte scientifique est de nature à inviter les historiens à se reposer la question de l'occupation viking en Gascogne, ou de leur présence au moins.
Et donc vous disiez que même au nord de la Loire aussi, on a eu... du passage, en tout cas, du...
Les Vikings, ceux qui ont investi la France, c'était des rois qui venaient de Norvège, qui cherchaient à accéder au commerce méditerranéen, et pour cela, ils devaient contourner l'Empire franc. Donc, ils vont contourner l'Empire franc au début, ils vont aller jusqu'au Pays Basque très tôt, 50 ans avant le début des invasions, ils sont déjà signalés au Pays Basque. Et ils n'y font pas la guerre, ils sont alliés avec les rois chrétiens contre les musulmans, donc ils sont là pour le commerce. Et forcément, sur cette route pour atteindre le Pays Basque, ils n'y vont pas en droite ligne. Les Vikings longent les côtes. Ils longent les côtes de jour et tous les soirs ils touchent terre pour donner un repas chaud aux hommes, et parce qu'il est impossible de longer la côte la nuit. Et donc il va y avoir une route côtière qui va longer l'Empire carolingien de la Norvège jusqu'à l'Espagne, et tous les 150-200 km, ils vont avoir une escale. Et cette escale, elle doit être à l'abri de la houle, elle doit être à l'abri du vent, elle doit être à l'abri des attaques terrestres, et donc ils vont choisir des presqu'îles, des îles ou des îles dans les marais pour installer ces escales. Et certaines de ces escales vont devenir très importantes stratégiquement parce qu'elles présentent un intérêt. Par exemple, Cherbourg va être une base très importante quand ils décident d'attaquer sur la Seine de Paris. Ils ne viennent pas de Scandinavie, ils sont à Cherbourg et ils lancent leur offensive depuis Cherbourg. Quand ils décident d'attaquer Nantes en 843, ils ne viennent pas de Scandinavie. Ils sont installés à Quiberon, et le jour où ils décident d'attaquer Nantes, ils attendent le vent favorable et ils y vont. Et en Gascogne, ils vont être à Royan et à Mimizan. Et les vieilles sources gasconnes disent qu'effectivement, la Gascogne est attaquée par des Vikings déjà installés à demeure. Donc on voit qu'il y a tout à revoir sur la manière dont on a pensé ou pas pensé justement la logistique des invasions en France. Si on veut comprendre le phénomène viking, il faut se poser la question maritime, la question logistique, la question commerciale. Et ce sont des questions qui, virtuellement, ne sont jamais posées quand on étudie cette période et ces gens-là.
très bien. C'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, on a souvent cet angle très fermé sur les Vikings et qui est aujourd'hui aussi relayé par une série qui est très populaire, qui se veut aussi un peu historique et assez, assez proche du réel. Juste, je vais recentrer un petit peu peut-être sur un côté culture un peu scientifique. Peut-être qu'en navigation, les Vikings ont laissé aussi des techniques ou peut-être des choses qui persistent encore, parce qu'ils ont été aussi des précurseurs sur de l'exploration et sur...
Absolument. Mais aujourd'hui, en France, ça va être essentiellement dans le vocabulaire maritime qu'on va retrouver cette présence scandinave et cet héritage scandinave. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'au moment où les Vikings lancent leurs invasions sur les rivages de la France, il n'y a quasiment plus personne qui navigue en France. Par exemple, on sait que les Armoricains étaient de grands marins. Il y avait les Vénètes dans le golfe de Vannes, les Coriosolites à Saint-Malo, les Osismes à Brest, et c'était des peuples de marins. Mais lorsqu'ils sont vaincus par les Romains, Jules César va exiger d'avoir le monopole du transport maritime vers l'Angleterre. Et donc, il va interdire aux Armoricains d'avoir des constructions navales et des bateaux. Et donc, les Armoricains vont perdre leur savoir-faire maritime en peu de temps. Et il va y avoir une deuxième couche qui va les éloigner de la mer, c'est qu'au moment où on devient chrétien, où l'Empire devient chrétien, les Bretons deviennent chrétiens, et il se détourne une nouvelle fois de la mer, parce que mourir en mer, c'est la garantie voir son âme errer sur les flots à jamais. Pour aller au paradis, il faut avoir une sépulture enterrée. Et donc, les Bretons tournent complètement le dos à la mer, ils se réfugient au fond des Abers, à Morlaix, Saint-Brieuc, Quimper. Par contre, les 3 km de côte sont totalement vidés. Les vieilles villas gallo-romaines avec vue sur mer, elles sont désertées. Et les Vikings, quand ils débarquent, eh bien, ils trouvent une côte où ils ont besoin de havres, donc ils vont s'installer. Et ça va bien se passer avec les Bretons, puisque eux sont sur la côte, les Bretons sont à l'intérieur, ils leur vendent du poisson, on leur vend des légumes. Et bon, voilà, quoi, on va avoir, pendant près d'un siècle, une coexistence pacifique entre les deux peuples. Et c'était l'intérêt des Vikings, parce que partout où ils débarquent, les Vikings vont dire aux Bretons, aux Aquitains, aux Frisons, vous avez été conquis par les Francs, vous voulez vous débarrasser d'eux, on va vous aider. Et donc partout où ils débarquent, ils se présentent comme des libérateurs, et plein de jeunes Bretons, de jeunes Aquitains, de jeunes Frisons vont rallier les rangs des Vikings. C'est pour ça qu'ils vont être si nombreux et si efficaces, puisque dès qu'ils débarquent quelque part, ils ont forcément dans leurs troupes des gars du pays qui connaissent les gués, les ponts, les cols, les garnisons. Donc voilà quoi.
Donc ils auraient réorienté les Bretons vers la mer.
Si on regarde bien, les principaux ports côtiers, à mon avis, sont de fondation scandinave. Et c'est effectivement les Scandinaves qui vont réévangéliser toute l'Europe jusqu'à Gibraltar en termes maritimes. Ça, c'est clair et net. C'est personne d'autre. Ça va passer par le biais de l'Aquitaine au Moyen-Âge, mais, ou la Normandie d'ailleurs. Mais bon, ceci dit, les généticiens sont en train de découvrir qu'il y a plus de gènes scandinaves en Bretagne qu'en Scandinavie. Qu'en Normandie, pardon.
Oui, d'accord.
C'est normal, il y a plus de côtes.
Oui. Donc on va se retourner peut-être vers la mer. Quelles sont les prochaines explorations pour le musée, en tout cas pour tout ce qui est recherche sur la biodiversité, peut-être aidé aussi par de nouvelles technologies?
Je vais en parler, mais tout à fait. Je voulais un peu compléter ce que vous disiez. Et sur la côte, on connaissait bien la faune. Et quand j'entends vos histoires, ça explique aussi peut-être pourquoi encore actuellement les Bretons connaissent si peu la mer. Hein, la mer, c'est encore un domaine qui est lointain. Et il faut savoir que jusqu'en 1850, on pensait qu'au-delà de 500 mètres de profondeur, il n'y avait plus de vie. Et ce sont les premiers câbles télégraphiques qui ont démontré qu'il y avait de la vie au-delà, hein, parce que quand ils ont ramené les câbles télégraphiques, donc là encore on revient sur la technique, et bien ils sont aperçus qu'il y avait des organismes qui s'étaient fixés. Et c'est en fait à partir de ce moment-là, dans les années 1880, qu'ont eu lieu les premières grandes expéditions du Challenger qui ont fait le tour du monde. Et pour la première fois, on a exploré, on est allé jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Et on a ramené quantité d'organismes. Et cette tradition se perpétue. J'allais dire, la France, elle est quand même leader dans ces grandes expéditions scientifiques. Et la prochaine, elle va avoir lieu en septembre, au large de la Nouvelle-Calédonie. On va aller explorer les monts sous-marins. Il y a des montagnes sous-marines. Il faut savoir et l'intérêt de la cartographie pour
nous. Pour savoir se déplacer.
Voilà, et majeur. Il faut qu'on connaisse les fonds pour pas taper n'importe où. Et les fonds sous-marins sont riches d'une faune qu'on connaît très très peu. Et chaque fois qu'on va faire un chalut ou une drague, on va ramener des espèces nouvelles pour la science. Hein. Elles étaient là depuis longtemps, mais elles sont nouvelles pour les scientifiques.
Et peut-être que, au-delà des expérimentations, est-ce que vous avez déjà des perspectives au-delà de cette expérimentation que vous menez au sein de l'école ?
Alors, pour l'automatisation, c'est d'un bateau, par exemple, ça sera juste à la surface, donc pour aider à réduire les coûts, en fait, et donc augmenter le nombre d'opérations pour étudier des fonds marins. Après, on travaille aussi avec l'Ifremer, par exemple.
Oui.
Donc, par exemple, sur ce qu'on appelle des AUV ou des ROV. Donc, les AUV, c'est des robots sous-marins autonomes qui sont donc vraiment posés sous l'eau, qui se déplacent tout seuls. Et les ROV, par contre, sont pilotés avec un câble directement depuis un bateau qui est juste au-dessus.
D'accord. Et on aura la possibilité d'explorer des grands fonds avec...
L'Ifremer essaye déjà de le faire. Le problème, c'est que c'est très ponctuel, ce genre d'opération. On couvre une toute petite zone, alors que les océans, c'est des millions de kilomètres carrés qui s'étendent. Donc oui, c'est vraiment des toutes petites opérations. On couvre une dizaine de kilomètres carrés. Ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle des océans, c'est vraiment ridicule. Donc par exemple, les monts sous-marins, j'imagine que c'est une centaine de kilomètres carrés.
Oui, tout à fait.
Maximum.
On va se servir d'un ROV, justement, dans la deuxième partie de la mission.
C'est à quelle profondeur, à peu près ?
On va démarrer à 300 et on va aller, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 2500 mètres. Donc c'est pareil, c'est des opérations qui prennent du temps. Plus on va en profond, et plus ce sont des opérations qui prennent du temps.
Qui demandent des moyens importants. Plusieurs bateaux à la surface pour soit loger les scientifiques ou tout simplement piloter un ROV, ça demande énormément d'énergie. Ça prend aussi de la place. Par exemple, vous pouvez voir dans le hall 4 de l'Amérique XL des maquettes des sous-marins de l'Ifremer. Donc ça fait en moyenne 6 mètres. Il faut quand même les entreposer quelque part hors mission, les transporter aussi, faire de la maintenance, donc ça demande vraiment
une logistique importante.
Une logistique importante, oui.
Et donc j'entends bien, donc c'est vraiment très très ciblé ce type d'expédition. Quel est le facteur déclenchant pour que d'un coup on se dise là ça vaut le coup, on va pouvoir enrichir nos connaissances?
Alors en biologie, je parle juste de la biologie, peut-être aussi un peu en géologie, on fait des premières campagnes exploratoires et on s'aperçoit qu'effectivement ce qu'on ramène est intéressant. Donc là, j'allais dire la Nouvelle-Calédonie, on y est allé plusieurs fois et on sait que sur ces Simounts, il y a des choses vraiment intéressantes. Mmh. On sait qu'il y a des organismes nouveaux parce qu'on en a eu des petits bouts. Et puis l'intérêt d'envoyer un ROV, c'est de voir ces organismes in situ, dans leur milieu, en train de se déplacer ou d'être fixé. En fait, on les voit se comporter. Et pour nous, c'est important de savoir comment ces organismes interagissent les uns entre les autres, comment ils se comportent, parce que quand on donne un coup de chalut, là, on travaille un peu comme les pêcheurs, on met notre chalut à la mer, on traîne moins longtemps, on ramène du matériel, mais tout est mélangé. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe au fond. On peut déterminer les espèces, on peut suspecter certaines interactions, mais on a besoin de les valider. Et puis on a besoin aussi de données physiques qui sont fournies donc aussi par les collègues, les courants, l'importance de l'arrivée de la nourriture, parce que la majorité de la nourriture arrive quand même de la surface, sauf cas des sources hydrothermales ou des carcasses de baleines, où là c'est un autre système. Donc pour nous c'est important d'avoir toutes ces données-là pour voir comment l'écosystème va vivre. Il faut savoir que sur les monts sous-marins, en plus, c'est très riche et que les pêcheurs l'ont repéré et que notamment les Néo-Zélandais viennent pêcher dessus parce qu'ils font de belles prises. Donc, nous, on a besoin de savoir pourquoi c'est riche. Et,
généralement, les monts sous-marins, en fait, c'est tout simplement des volcans qui sont soit encore en activité, soit éteints. Donc, il y a une température qui est propice à la vie. Il y a aussi c'est riche en minéraux qui vont permettre à la vie de se développer de façon assez importante. Donc par exemple, on peut voir qu'à la fosse des Mariannes, on est à 11 mm de fond. Avec la pression qu'il y a et la température qu'il devrait y avoir, on ne devrait pas avoir de vie. Mais justement, il y a des colonnes fumantes, donc des petits volcans, des petites sources de chaleur autour desquelles la vie va se développer. Ça va être très restreint autour, mais il y a quand même une abondance de vie assez énorme.
autour des du fumoir.
Oui, donc c'est vraiment la température et la présence de minéraux qui vont permettre à la vie de se développer. Donc nous, pour l'ENSTA, on est plus pour les opérations, c'est pas vraiment de la biologie, c'est aussi pas mal de géographie et malheureusement aussi pour les industriels, donc par exemple des sources de pétrole ou de gaz. Donc nous, on va détruire l'écosystème après, malheureusement. Mais donc on fait des relevés bathymétriques ou en tout cas de sol, de géologie pour vraiment exploiter ce genre de région. Et les monts sous-marins peuvent aussi être assez attirants vu qu'il y a beaucoup de ressources à cause de cette source de chaleur et de la présence de minéraux.
Et s'il fallait un petit peu orienter vers l'éducation, qu'est-ce que vos structures peut-être peuvent apporter à travers peut-être du coup de l'accueil de public au sein du musée et de la station marine. Peut-être que vous faites aussi au sein de l'école des animations vers des publics scolaires, peut-être pour montrer aussi la richesse et les pôles d'excellence de développement.
Alors à l'ENSTA, on a certains projets, des personnes qui peuvent participer et aller dans des classes de primaire et donc présenter un sujet autour de la mer. Donc que ça soit du développement durable ou tout simplement de la biologie ou qu'importe. On essaye de vraiment d'aller dans les classes, de vraiment montrer ce qui se passe.
Diffuser cette culture.
On essaye de vulgariser aussi un peu la science qui est là derrière. Donc on a aussi des opérations, des clubs au sein de l'école qui font des actions pour le développement durable. Bon, par exemple, on a eu une association qui est allée nettoyer la plage des Moulins Blancs.
Ils ont fait un plugging, c'est ça ? C'est l'expression consacrée quand on crée une opération.
Ils ont essayé vraiment de ramener des gens et de nettoyer cette plage, la seule de Brest. Et oui, on essaye vraiment de participer à l'extérieur de l'école pour vraiment sensibiliser.
Très bien. Et au sein de la station marine ?
Alors, bon, nous, on a énormément d'interactions avec le public et les scolaires. Il y a des interactions auxquelles je tiens énormément qui s'appellent les sciences participatives. Où le citoyen devient acteur. Et d'ailleurs, actuellement, on a un de nos projets qui est présenté, qui est sur la laisse de mer. L'intérêt de ces sciences participatives, c'est que d'une part, on va sensibiliser le citoyen, si je prends le programme, à la laisse de mer, donc à cet écosystème. En général, quand les gens arrivent sur une plage, ils confondent l'écosystème laisse de mer avec les marées vertes. Donc dès qu'on voit des algues sur la plage, il faut nettoyer. Donc l'objectif, c'est de leur montrer qu'il y a un écosystème qui est là, qui est bien vivant, qu'il est indispensable. Et donc on leur apprend à identifier, la première étape, c'est de leur apprendre à identifier les algues. Après, on leur apprendra à identifier les petits organismes qui vivent dedans. Et le troisième volet, ce sera apprendre à identifier les oiseaux. Tout ça pour que le public s'accapare cette laisse de mer et se rende compte qu'elle est indispensable. Et nous, ça va nous donner de la donnée. Parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement, on n'a aucune donnée sur cette laisse de mer. Et l'objectif, c'est de le faire sur la durée pour pouvoir voir dans 4, 5, 6 ans, eh bien, est-ce que cette laisse de mer, elle sera toujours sur nos plages ? Comment elle va évoluer sous l'impact du changement climatique ? Et là, c'est vraiment une synergie entre le citoyen et le scientifique auquel le muséum tient vraiment à cœur. Et par exemple, on a un programme qui se fait sur les oiseaux, plus de 30 ans de données, qui a permis de montrer que les oiseaux avaient, certains complètement pratiquement disparu, d'autres avaient changé leur aire de distribution. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même 80% des espèces d'oiseaux qui étaient en danger en Europe. Donc ces sciences participatives sont vraiment, j'allais dire, un lien très fort. Alors que quand vous faites une petite animation au muséum, vous apprenez des choses au public, vous leur faites découvrir le milieu proche, mais les gens repartent et sont moins impliqués.
Et chez Tuscaland, en tout cas, vous avez une plateforme, un site sur lequel vous diffusez aussi les contenus, peut-être l'avancée de vos recherches.
Oui, tout à fait. Il y a un site, mais à l'heure actuelle, on s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants. Et évidemment, le jour où on ouvrira un musée, le Viking est quand même une star dans l'imaginaire historique français et mondial, de toute façon. Le Viking est quasiment le seul envahisseur qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Vous demandez à un enfant de dessiner un Viking, il met un casque et puis un drakkar et puis c'est parti. Donc oui, ça va être. Il va y avoir des choses à faire avec les enfants, mais on n'est pas encore là malheureusement.
D'accord. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes.
Merci.
Et puis venez au salon XXL pour découvrir aussi les stands de ses partenaires. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.